entre nous soit dit. Faut-il avoir peur de l'islam ? Avec Annie Laurent. Depuis les attentats de janvier et de novembre 2015 à Paris, nous devons vivre avec et contre l'État islamique. Il s'agit de ne pas succomber à la peur, car c'est précisément cela, la peur, la terreur, que cherche à provoquer le terrorisme. Mais il s'agit aussi de ne pas tomber dans l'aveuglement et la lâcheté. Le djihadisme est-il un phénomène accidentel, lié essentiellement à des circonstances politiques et économiques ? Il suffirait alors d'établir la démocratie, la laïcité et l'économie de marché pour sortir de cette menace. Ceux qui s'attachent à cette lecture, cependant, sont tributaires d'une vision progressiste où le sens de l'histoire est celui d'une irrésistible sécularisation. Or, ne faut-il pas plutôt admettre que le religieux est de retour dans la sphère publique et qu'il est bien plus immortel que nos révolutions ? Mais si le djihadisme est bien un phénomène religieux, est-il essentiel à l'islam ou procède-t-il d'une compréhension erronée, extrémiste du Coran ? Mahomet peut-il commander, comme Jésus, de remettre le sabre dans le fourreau et de porter sa croix plutôt que de la faire porter aux autres ? Pour réfléchir à la question de l'islam, nous avons le bonheur d'avoir avec nous aujourd'hui Annie Laurent. Annie Laurent, bonjour.
Bonjour Fabrice Sadjal.
Vous êtes docteur en sciences politiques, journaliste, auteur de nombreux ouvrages, je ne citerai que les derniers, « Les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître ?» ou encore « L'islam peut-il rendre l'homme heureux ?» Vous avez participé comme expert au synode pour le Moyen-Orient, synode réuni en 2010 par Benoît XVI, et vous êtes fondatrice de l'association Clarifier qui publie chaque mois la petite feuille verte, une merveille, on pourrait dire, de pédagogie pour nous initier d'une certaine façon à la réalité de l'islam. Alors pour commencer, je voulais faire allusion à un célèbre hadith sur le prophète qui raconte que Mahomet, au retour d'une guerre contre les infidèles, aurait prononcé cette parole. Maintenant, nous en avons fini avec le petit djihad contre les infidèles. Nous allons passer au grand djihad qui est la lutte contre les passions qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Beaucoup ont dit en fait que le mot djihad dans le Coran ne renvoyait pas au combat sanglant avec les armes temporelles pour l'extension, on pourrait dire, de l'islam, mais au contraire relevait d'une interprétation qu'on devait avoir, une interprétation mystique. Il s'agissait avant tout d'un combat spirituel. Est-ce que cette interprétation est juste ?
Alors d'abord je dirais que... Il est difficile à un non-musulman de dire ce qui est la juste interprétation ou l'interprétation erronée du Coran. C'est aux musulmans de nous dire quel est le véritable islam, quel est l'islam authentique. Je pense que c'est une position indispensable à avoir. Alors la phrase que vous avez dite, qu'on attribue à Mahomet, effectivement, elle se trouve dans la Sunna, la tradition, qui est cet immense recueil de récits avec les attitudes de Mahomet en telle ou telle circonstance. Donc si on en croit la tradition, il aurait dit ça. Mais si on se fie au texte même du Coran, on est obligé, si on veut être honnête, de constater que dans le Coran, je dis bien dans le Coran, le djihad n'est que militaire, il n'est que belliqueux. Il n'y a pas de djihad moral ou mystique dans le Coran. Enfin, il n'y a pas de justification morale ou mystique au djihad dans le Coran. Alors, maintenant, le problème, c'est que comment interpréter les choses ? Dans la mesure, il y a des obstacles structurels qui font obstacle, qui empêchent des lectures, disons, pacifiées, modérées, si on peut dire, de ces versets qui sont quand même inquiétants, même si il faut faire attention de ne pas céder à la peur, comme vous l'avez dit, et ça, moi aussi, je l'affirme. La peur est très mauvaise conseillère, ce n'est pas la bonne réponse au terrorisme islamique. Il faut savoir raison garder. Pas de passion.
C'est que vous accomplissez vous-même le grand djihad, alors en vous-même, la lutte contre les passions.
Si vous voulez, je m'y efforce. Je crois qu'au défi de l'islam, puisque l'islam est un véritable défi, surtout aujourd'hui, nous devons opposer, je suis catholique, nous devons opposer les armes de l'évangile. Et retrouver, comme le disait beaucoup Benoît XVI, et pour moi c'est un maître, l'usage de la raison, la bonne place à la raison, foi et raison. Alors, pour revenir à l'interprétation du Coran, il y a donc ces dizaines de versets qui légitiment le combat militaire commandé par Dieu. Hein, c'est Dieu qui dit tuez, crucifiez, combattez, mettez des embuscades.
Combat qu'a mis en pratique Mahomet lui-même.
Exactement, bien sûr. Et il faut dire que le Coran, dans sa deuxième partie, parce qu'il y a deux parties dans le Coran, la première partie relative à la prédication de Mahomet à la Mecque, qui est beaucoup plus acceptable, disons. Et la deuxième partie, c'est la période de Médine, de 622 à 632, où là, Mahomet est devenu chef d'État, guerrier, législateur, etc. C'est là aussi où il est devenu polygame, d'ailleurs, où tout a changé. Il s'est imposé comme le chef de la première cité islamique de l'histoire. Et c'est un modèle, cette période de Médine, un modèle pour certains musulmans, ceux qui veulent justement imposer l'islam par la force. Et c'est vrai que les versets qui sont datés de la période de Médine reflètent ce que Mahomet a vécu.
Et on distingue aussi d'ailleurs des versets, parce que la lecture courante, on pourrait dire, du Coran, distingue des versets abrogés et des versets abrogeants. On pourrait dire que celui qui regarderait ça dans une traduction sans cet aspect-là critique pourrait dire, ben voilà, il y a des choses qui sont gentilles, la Mecque, et puis des choses qui sont beaucoup plus rudes, beaucoup plus âpres, beaucoup plus violentes, Médine. Mais en réalité, dans le monde musulman, c'est la période de Médine qui prime sur la période de la Mecque et qui abroge d'une certaine façon. C'est ça, les versets plus pacifiques.
Voilà, alors au cœur du Coran, il y a un verset où Dieu se réserve le droit d'abroger telle ou telle disposition. Ces dispositions en question ne concernent jamais le dogme. Hein. Ça ne concerne que la pratique, le culte, par exemple. Un exemple très simple. À un moment donné, Dieu a demandé, à travers le Coran, aux musulmans de se tourner vers la Mecque pour la prière, non plus vers Jérusalem, ville vers laquelle ils se tournaient au début de la prédication de Mahomet. Voilà un exemple d'abrogation. Alors, il y a ce verset-là, mais ce n'est pas du tout rassurant, parce que, justement, si on tient compte de l'ordre chronologique, qui n'est pas l'ordre retenu par ceux qui ont rassemblé le corpus coranique tel que nous l'avons jusqu'à maintenant, depuis le troisième calife, Othman, eh bien, il n'y a pas d'ordre chronologique, il n'y a pas d'ordre thématique non plus, tout est mélangé. Seulement, heureusement pour nous quand même, des savants musulmans ont rétabli ce qu'ils pensent être l'ordre chronologique. C'est comme ça qu'on peut savoir, plus ou moins approximativement, parce qu'il y a aussi des incertitudes, que tel passage du Coran est daté de la Mecque et tel autre de Médine. Et effectivement, il se trouve que les versets les plus durs, les versets politiques, guerriers, législatifs, sont datés de Médine, donc de la dernière période de la vie publique de Mahomet et de la descente du Coran. Alors, si on suit notre manière de voir, notre manière rationnelle d'occidentaux, on est obligé d'en déduire que les versets de Médine, donc les plus durs, abrogent les versets de la Mecque. Comment faire ? Parce que tout ça, aussi bien les versets de la Mecque que ceux de Médine, sont maintenus dans le Coran. Alors, vous allez me dire, ben c'est très bien. Au moins, il y a des musulmans qui peuvent ne se référer qu'aux versets de la Mecque. Des musulmans pacifiques, qui n'ont pas envie de faire la guerre, qui préfèrent avoir une vie pieuse, morale, enfin relativement, parce que la morale en islam, elle est quand même relative, hein, relativiste plutôt. On pourra y revenir. Mais donc, c'est bien qu'on ait maintenu dans le Coran les versets qui devraient être abrogés, donc sortis du livre. Ça permet à des musulmans donc de s'y référer. Mais n'empêche qu'il est possible à d'autres musulmans de pratiquer le combat militaire en se fondant sur des versets de Médine qui sont d'une dureté, notamment la sourate 9, la 9e sourate. Vous voyez, on revient à la question de l'ordre chronologique. C'est la 9e sourate. Or, les savants nous disent qu'elle est la dernière révélée, la dernière dictée à Mahomet. Elle porte le numéro 9. Vous voyez, c'est ce mélange étonnant. Alors, les musulmans ne s'interrogent pas sur les raisons pour lesquelles il y a ce mélange, justement, thématique, chronologique, etc. Mais cette sourate 9, elle est particulièrement dure pour les non-musulmans. C'est là qu'on trouve le verset 5, dans la sourate 9, qui est le fondement du djihad. Dieu est censé dire dans ce verset qu'il est même permis de tuer pendant les mois sacrés, puisqu'à l'époque de Mahomet, dans la péninsule arabique, il y avait des mois sacrés dans lesquels on ne devait pas porter les armes, eh bien, dans la mesure où ce combat est justifié par la cause de Dieu et la cause de l'islam, le combat est permis, même si, Dieu dit dans le Coran, même si vous l'avez en aversion. C'est un bien pour vous, voyez ? Ben voilà.
Oui, c'est-à-dire que même, il faudrait même surmonter l'aversion, le dégoût qu'on aurait à égorger quelqu'un un jour sacré. Donc, il y a une sorte d'ascèse dans le sens de la violence, c'est ça ?
Ben voilà, c'est terrible.
C'est peut-être ça la guerre contre les passions. Donc, on doit lutter contre ces passions pacifiques pour aller vers des passions plus violentes.
Pourquoi pas, oui. Et puis, il y a un autre verset dans cette sourate, c'est le 29, 9, 29, non ? Sourate 9, verset 29, qui est le fondement de la dhimmitude, le statut juridique que le Coran réserve aux juifs et aux chrétiens, qui sont qualifiés de gens du livre, d'une manière ambiguë. Ce statut juridique implique des inégalités, des injustices envers les chrétiens et les juifs. On leur permet de pratiquer leur culte, mais à quel prix ? Avec un impôt spécial, en plus de l'impôt normal, avec interdiction de participer aux affaires publiques, d'exercer certains métiers, enfin, et puis surtout, pas de visibilité.
Ou de témoigner, voilà, de témoigner de sa foi.
Ça, n'en parlons pas, oui.
Mais alors justement, vous parlez de la dhimmitude. Je pourrais vous objecter que ce terme a été forgé par Batior, hein, avec ce, on pourrait dire ce suffixe qui renvoie à la servitude d'une certaine façon, alors que le dhimmi en arabe c'est le protégé d'abord. Alors c'est une protection à l'origine. Quel est le sens de ce mot ?
Le mot dhimmi traduit littéralement veut dire protégé, en effet. Donc la dhimmitude, oui. Mais moi je le traduis différemment parce que la protection. Qu'est-ce que c'est la protection vue par le Coran ? La protection des juifs et des chrétiens. C'est une tolérance. Le pouvoir musulman tolère aux juifs et aux chrétiens la possibilité de garder leur permet de garder leur religion avec des conditions donc, qui en font des citoyens de seconde zone. Un impôt spécial, comme je l'ai dit, le plus possible l'invisibilité dans la pratique du culte, donc l'abstention d'exercer des fonctions politiques, certains métiers, des tas d'autres dispositions de ce genre-là. Il y a une injustice là. Les musulmans présentent la dhimmitude, la dhimma, le mot exact, comme un contrat par lequel les juifs et les chrétiens sont protégés par l'État, à condition de payer cet impôt. Mais, moi j'ai fait du droit, en catégorie de droit français, nous avons le contrat léonin. En fait, c'est la loi du plus fort qui s'applique à la loi du plus faible. C'est dans une disposition de vainqueur et de vaincu que ce verset est sans doute arrivé à Mahomet. Donc tout de même, il y a une vraie injustice là. Ça implique le fait qu'il n'y a pas de citoyenneté égale dans les pays où l'islam est la religion de l'État.
Mais est-ce que ça n'était pas déjà le cas sous le catholicisme, on pourrait dire ? Les juifs étaient ghettoisés, voilà. Et quant aux musulmans, ils étaient carrément absents. Certains nous parlent justement d'une dhimmitude, par exemple, en Andalousie, qui était bien meilleure que la situation finalement faite par le monde catholique à l'étranger ou celui qui n'était pas chrétien.
Oui, pour la question des juifs en Europe, par exemple, je ne crois pas qu'on puisse la mettre sur le même plan que la dhimmitude vue par le Coran, les ghettos, tout ça. Ce sont des dispositions qu'on n'appliquerait plus aujourd'hui, heureusement, bien entendu. Mais il n'y a pas un fondement scripturaire dans ce statut. Voilà. Mmh. Mais c'est capital, ça. Dieu n'est pas intervenu pour ça.
Ça a été une pratique de la chrétienté, mais qui n'est pas une pratique chrétienne au sens du christianisme.
Exactement. Ce n'est pas conforme à l'évangile. Et ça, les musulmans en Europe, franchement, en Andalousie, ils ont plutôt dominé. Ils n'étaient pas des dhimmis, pas du tout. Bon, c'est vrai qu'il y a eu l'expulsion des musulmans, mais.
Et il y avait aussi au-delà de cette situation de dhimmitude avec un espace donc à la fois réservé mais contraint au silence, à l'impôt, à une impôt, enfin à un tribut. Mais il y avait aussi des pogroms très forts en fait.
Ça n'a jamais empêché les persécutions, les massacres, etc. Voilà. Les violences physiques, bien sûr. Il y a un mot que j'ai oublié de dire. Concernant la dhimmitude, ce mot est essentiel. Il est au cœur du statut du dhimmi. C'est le mot humiliation. Le verset 29 de la sourate 9, donc qui fonde la dhimmitude, le dit très bien. Imposez-leur, cet impôt spécial, la jizya, jusqu'à ce qu'ils soient humiliés. Et c'est très important et c'est très fort. Batior a signé son livre, qui est très important, Les chrétientés d'Orient entre djihad et dhimmitude. Et je trouve qu'elle a raison de mettre sur le même pied le djihad et la dhimmitude. La dhimmitude, pour moi, c'est une arme redoutable entre les mains des pouvoirs musulmans. Et même, elle est plus efficace que le djihad. Parce que le djihad, on est victime de persécutions, il y a le martyr, faire attention, bien sûr, le martyr, c'est pas évident non plus pour un chrétien, mais on sait ce que c'est. L'humiliation, la dhimmitude, c'est pervers, c'est pernicieux. Ça vous avilit au jour le jour. On ne donne pas son sang pour le Christ, là, ou pour la foi. Mmh. On est soumis à ce statut d'infériorité.
On pourrait dire que le djihad ne nous laisse pas le temps d'avoir le syndrome de Stockholm, quoi, c'est-à-dire une sorte de fascination pour le bourreau, alors que dans la dhimmitude, on peut être dans une situation de terreur où on devient complice. On pourrait presque dire d'ailleurs que, c'est ce que dit d'ailleurs Batior, que souvent certains patriarches d'Orient ont toléré et ont même soutenu des politiques qui étaient des politiques extrêmement dures parce qu'ils voulaient protéger leur population de pire, en fait. Et donc, ils avaient accepté même cette forme d'humiliation.
Oui, il y a un phénomène que j'appelle l'intériorisation de la dhimmitude. C'est le syndrome de Stockholm, ça revient au même. On intériorise un état de fait qui nous est imposé de l'extérieur parce qu'il y a le désir de protéger des populations menacées, certes, mais malheureusement, il peut y avoir aussi des attitudes moins nobles qui consistent à préserver des privilèges, à plaire au pouvoir. Alors, on le flatte, on tombe, vous voyez, dans la flatterie, dans le mensonge, dans le non-dit, dans le flou. Publiquement, on dit, mais non, il n'y a pas de problème, avec nos frères musulmans, tout va très bien. Et puis, après, lorsqu'on se retrouve avec tel ou tel patriarche ou évêque, en privé, il nous dit, c'est affreux, on n'en peut plus. Vous voyez, il y a ce double langage qui n'est pas conforme à l'enseignement de l'Évangile, bien entendu. C'est très grave, cette intériorisation de la dhimmitude. Et ça continue, ça minait vraiment la vie morale des chrétiens d'Orient.
Alors, avant d'aborder cette question, à mon avis, importante de la dhimmitude mentale, et puis peut-être même telle qu'elle existe en France, et même peut-être dans le gouvernement français, on pourrait se poser cette question-là, je voudrais revenir un petit peu en arrière et me faire encore le défenseur, d'une certaine façon, de l'islam. Malgré tout, dans l'islam, on parle d'Allah le miséricordieux. C'est aussi une religion qui affirme la miséricorde. Alors, pourquoi l'islam ne pourrait pas être comme l'évangile? Quelle est la différence entre la miséricorde telle que révélée dans les écritures juives et chrétiennes et la miséricorde telle que dictée, on pourrait dire, par le Coran?
Alors, le Dieu miséricordieux, les musulmans aiment l'invoquer, ce Dieu miséricordieux, parce qu'ils espèrent en sa miséricorde. Mais réellement, sur le fond, la miséricorde en question, elle est conditionnelle. Alors que, selon l'enseignement biblique, la miséricorde de Dieu est inconditionnelle. Dieu aime tous les hommes pour nous. Pour les musulmans, ce n'est pas le cas. Dieu aime telle ou telle catégorie d'hommes. Évidemment, il aime les musulmans, en priorité. Il n'aime pas les autres. Dieu aime... ce verset. Dieu pardonne à qui il veut, il châtie qui il veut. Vous voyez ? Alors, comme il n'y a pas de sacrement non plus, un musulman conscient d'avoir commis une faute grave, mettons, il peut se repentir sincèrement dans son cœur, demander pardon à Dieu. Mais jamais il ne saura si ce Dieu qu'il appelle miséricordieux lui pardonne ou pas. Voyez, si bien que ça instaure parfois une terreur intime chez les musulmans. Ils ne savent pas. Jusqu'à la fin de leur vie, ils peuvent rester avec une lourde faute sur la conscience. C'est terrible de ne pas savoir que Dieu peut donner son pardon de manière inconditionnelle.
Et inversement, on pourrait dire, pour les uns, ça pourrait les mettre dans une angoisse de ne pas savoir, et pour d'autres, dans une sorte de laxisme total, puisqu'on pourrait dire, puisque je ne sais pas, mon cœur reste dans l'incertitude, donc je n'ai pas à m'en préoccuper. Est-ce que c'est ça ce que vous appelez finalement le relativisme moral qu'il y aurait ? Parce qu'on pourrait dire, quand même dans l'islam, il y a une sorte de dogmatisme moral. Pourquoi est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure un relativisme moral ?
Oui, je parle de relativisme moral dans un autre sens. Je veux dire que dans le Coran, il n'y a pas la recherche de la perfection évangélique. Il n'y a pas le pardon absolu, comme demande le Christ, comme il nous le demande.
Donc cette miséricorde, justement, qui serait inconditionnelle.
Parce que la miséricorde, il y a celle de Dieu, mais il y a celle entre les hommes aussi.
Voilà.
Donc le musulman n'est pas appelé à aimer son prochain, et à aimer ses ennemis, à prier pour ses ennemis, à les bénir. Non, c'est impossible, ça n'existe pas dans le Coran, ça. Les ennemis sont les ennemis, et voilà, il faut les combattre, ou les avilir, les humilier.
Ou les convertir.
Ah, ou les convertir, bien entendu. Et justement, la dhimmitude est une arme très favorable à la conversion des juifs et des chrétiens. Des populations toutes entières se sont faites musulmanes pour échapper au statut d'humiliation de la dhimmitude. C'est pour ça que cette efficacité est redoutable. Il faut vraiment être vigilant à ce sujet. On pourra reparler de l'auto-dhimmitude, enfin de la dhimmitude mentale, si vous voulez, après. Donc, pour la morale, eh bien, il y a des permissivités dans l'islam. Prenons le cas du mariage. Il y a la permission polygamique. Du point de vue chrétien, ce n'est pas moral. Il n'y a pas la notion de conjugalité. Conjugalité qui est, comme vous le savez, le reflet de l'alliance entre Dieu et l'homme. Le mariage est une alliance. Cette admirable réalité qu'est la conjugalité. Je crois que chez les chrétiens, on ne mesure pas assez la grandeur de cette réalité. Donc, on peut tuer, on peut voler, dans la mesure où ça sert la cause de l'islam. C'est ça que j'appelle le relativisme moral.
On peut mentir,
oui.
C'est d'ailleurs une pratique, la taqiya, qui est une pratique, je dirais, ordinaire, fréquente.
Qui est, je ne sais pas si on peut dire fréquente, je n'aime pas trop généraliser quand même, mais qui est autorisée, permise dans le Coran. Dans la mesure où, par exemple, un musulman ne peut pas affirmer sa foi, parce que ça lui serait défavorable, il a le droit de se faire passer pour un juif, un chrétien, autre chose.
Oui, alors qu'un chrétien doit témoigner jusqu'au
bout. Oui, jusqu'au sang, bien entendu. Et donc, il y a ce relativisme-là.
Mais alors, justement, aussi, on pourrait dire qu'il y a une forme de relativisme dans les faits, mais il y a aussi une morale sans intériorité, puisque vous disiez, à l'intérieur, on ne sait pas finalement ce qu'il en est. Et justement, je me posais la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de compatibilité entre l'islam, fut-il même, je dirais, dans des formes très très rigides, et une certaine forme d'individualisme, c'est-à-dire compatibilité avec le monde moderne, parce qu'il s'agit simplement d'avoir des pratiques extérieures, et donc aussi il y a des pratiques qui réintroduisent Dieu, parce qu'on ne peut pas vivre longtemps sans Dieu, on peut en économie de marché avec du pétrole, mais c'est mieux s'il y a Dieu quand même, donc on garde à peu près tout, mais on rajoute Dieu parce que c'est important dans la dimension de l'homme pris dans son ensemble, mais cependant le cœur n'y est pas, c'est-à-dire qu'on peut rester finalement avec soi-même et on se tient quitte par des pratiques extérieures.
Ce qui est très important dans la manière de vivre des musulmans, c'est l'apparence. Il y a un dicton arabe qui dit « pas vu, pas pris ». Alors, vous pouvez commettre une faute réelle, objective, et si vous n'êtes pas pris, vous échappez à la sanction pénale, voyez. Donc, c'est vrai ce que vous dites. Ça empêche finalement la formation de la conscience, cette manière.
Et l'individu reste finalement l'individu, c'est-à-dire séparé, replié sur lui-même. Il n'est pas exposé ou à nu sous le regard de Dieu d'une certaine façon, en tout cas avec l'exigence de vivre une réelle communion avec les autres, communion de cœur.
Je relativise ça, si vous permettez, mais c'est pas non plus quelque chose qui est enviable. Le musulman, il existe en tant qu'individu et pas en tant que personne, puisque la notion de personne, elle est chrétienne. Elle est le reflet d'un Dieu personnel, un Dieu un en trois personnes, qui est un Dieu de relation, de communion, dialogue en lui-même, dialogue avec l'humanité. L'apogée du dialogue, c'est l'incarnation de son Verbe, Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'Église nous invite à dialoguer avec nos frères en humanité. Ça, Paul VI a de très belles explications dans Ecclesiam Suam, l'encyclique Ecclesiam Suam de 1964. C'est très profond sur le plan théologique. Alors, le musulman existe comme individu, mais sa dignité, il la tient comme musulman, donc être soumis à Dieu, un être soumis à Dieu, c'est le sens du mot islam, et également comme membre de l'Oumma. Il ne faut pas oublier cette réalité. L'Oumma, c'est la communauté des croyants musulmans. Alors, elle vous prend en charge, elle vous encadre, elle vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Elle vous surveille en permanence. Donc, l'homme est seul intérieurement, mais dans la société, il n'est pas seul. Vous voyez, un exemple concret chez nous, en Occident. Il est étonnant de constater que beaucoup de musulmans qui ne vont jamais à la mosquée pendant l'année, eh bien pendant le ramadan, suivent ce rite du ramadan avec le jeûne absolu, c'est très dur. Pourquoi ? Parce que c'est un rite communautaire. Et si on vit dans un quartier, par exemple, ou une ville à majorité musulmane, si on ne pratique pas le jeûne du ramadan, on est observé, surveillé, condamné moralement, vous voyez ? Donc ça vous oblige en quelque sorte.
Alors, on a parlé de la dimitude mentale. On pourrait avoir l'impression que c'est précisément quelque chose qui se joue de ce genre hein, de dimitude mentale, même en France et même dans les plus hautes instances. Je pense souvent à cette pièce de théâtre de Max Frisch qui s'appelle Monsieur Bonhomme et les incendiaires. Je vais résumer un petit peu l'histoire, mais on est à une époque où des anarchistes font des incendies, des attentats, à l'incendie, contre des grands industriels. Monsieur Bonhomme est un grand industriel. Un jour, un homme se présente chez lui et lui demande s'il peut habiter chez lui. Il comprend que c'est un anarchiste. Alors, il l'accueille dans une mansarde chez lui, en se disant que puisqu'il accueille un anarchiste, il va être protégé. Et puis, petit à petit, cet homme introduit des barils d'essence dans cette mansarde. Il y en a de plus en plus. Alors, Monsieur Bonhomme s'en rend compte et il dit « Mais si je ne dis rien, il ne va pas mettre le feu dans ma maison, parce que vous voyez, je l'ai accepté jusque-là, même avec ses barils d'essence. » Et puis, vers la fin de la pièce, Monsieur Bonhomme organise une sorte de repas où l'anarchiste a fait venir un autre de ces anarchistes, ces terroristes finalement. Il commence par faire un repas assez sobre, il n'a pas sorti la vaisselle en argent et tout, pour pas les écraser, pour montrer qu'il sait aussi être humble, etc. Mais alors tout de suite, ils disent « Mais pourquoi vous n'avez pas sorti la vaisselle en argent pour nous ? Est-ce que vous nous méprisez ?» Alors il ressort tout, il sort le grand jeu. Et puis, donc au final, il leur offre des cigares et il leur tend des allumettes. Et l'autre lui dit « Mais effectivement, il me manquait les allumettes ». Et alors, Monsieur Bonhomme a un instant de suspens. Est-ce que je donne l'allumette ou pas ? Et finalement, il lui donne l'allumette. Il lui donne l'allumette, persuadé que lui donnant l'allumette, eh bien, il ne mettra pas le feu, puisque c'est lui qui lui a donné. Et bien sûr, la maison de Monsieur Bonhomme va exploser.
C'est certain.
Et ça finit avec, d'ailleurs, Monsieur et Madame Bonhomme en enfer. Alors, la dernière scène, donc c'est quand même assez terrible, cette pièce d'un Suisse allemand, Max Frisch. Donc, Est-ce qu'on ne serait pas dans une situation presque analogue, c'est-à-dire qui est précisément la manière de se soumettre au terrorisme, à la terreur, et on est dans une terreur qui fait qu'on ne cesse de dire, par exemple, en France, mais non, écoutez, nous aimons l'islam, c'est bien. L'islam, en fait, c'est la République, donc il faut arrêter l'islamophobie. Et donc, on un peu dans cette logique de Monsieur Bonhomme face aux incendiaires.
Oui, il y a une anticipation d'un statut de DIMI qui ne nous est pas imposé du tout, mais on anticipe, justement. Alors, il y a la peur, on a peur de l'islam, ce qui n'est pas bien. Ça empêche, encore une fois, la réflexion saine et des prises de position qui soient justes pour le pays, pour la population. Et il y a la peur, mais il y a aussi les calculs qui conduisent à ça. Les calculs électoralistes, on veut acheter le vote musulman. Alors, on est prêt à des concessions de ce genre-là. On fait semblant de ne pas voir...
Et les calculs financiers aussi.
Bien sûr.
Parce qu'il y a quand même un argent qui vient des
pays pétroliers.
Des pays pétroliers ou du gaz, puisque le Qatar, c'est d'abord le gaz.
Oui. Non, mais tout à fait. Souvent, je dis... attendez, j'essaie de trouver ma formule. Nous sommes devenus les esclaves de nos clients. Nous concluons des marchés juteux, avantageux, ça crée des emplois, très bien, mais jusqu'à quand aussi, hein, il faut bien voir ça. Et en même temps, nous nous soumettons aux diktats de ces pays. Et ça se retrouve dans la politique étrangère.
Mais est-ce qu'il n'y a pas en même temps une sorte de renversement mental, d'ailleurs par rapport à ce que proposerait l'Évangile ? C'est-à-dire que on devrait être en fait musulmanophile, c'est-à-dire aimer les musulmans. Et parce qu'on aime les musulmans, on devrait être aussi entré dans un débat avec eux sur la vérité de leur religion, de la nôtre aussi, mais enfin chercher ensemble cette vérité, et donc être islamo-critique. Alors ce qui se passe, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'on est musulmanophobe, c'est-à-dire qu'on ne croit pas à la capacité des musulmans d'entrer dans un vrai débat, et à cause de cela... Parce qu'on a peur, on se rend islamophile et on se met dans cette attitude de dimitude mentale.
Oui, tout à fait. Et aussi de paternalisme, finalement.
Oui.
Puisque ne pas considérer les musulmans suffisamment adultes, surtout ici, où ils sont libres tout de même, adultes capables de réfléchir, de dialoguer, justement, de voir un peu ce qui pourrait être arrangé, ce qui pourrait favoriser la convivialité, eh bien, c'est du paternalisme.
C'est très intéressant ce que vous faites, ce lien entre paternalisme et dimitude. C'est-à-dire que ce qu'on devient dhimmi par paternalisme.
Oui, voilà. Et on peut même dire que c'est du néocolonialisme, finalement. Enfin, et puis aussi,
mais qui nous soumet, au final.
Mais exactement. C'est très pervers.
Néocolonialisme honteux.
Oui, voilà. Oui. C'est très pervers, ça. Et le fait aussi de vouloir imposer à des sociétés qui sont autres sur le plan culturel, nos propres critères d'organisation sociale. Je pense à la démocratie et aux droits de l'homme. Évidemment, je ne suis ni contre les droits de l'homme, ni contre la démocratie. Mais dans le monde musulman, ça fonctionne différemment. Il n'y a pas la laïcité, il n'y a pas la distinction des pouvoirs temporels et des pouvoirs spirituels. Tout ça est fondé sur les écritures sacrées des musulmans. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas un accident de l'histoire. Il a pu y avoir des épisodes de laïcisation limité dans le monde musulman, soit parce qu'il y avait un héritage de l'époque coloniale, c'est le cas certains pays d'Afrique subsaharienne. Au Proche-Orient, il y a la Turquie, mais la laïcité instaurée par Atatürk en 1923 avec la République, ce n'est pas la même laïcité que la nôtre. Il n'y a pas la séparation des pouvoirs. C'est la mise sous tutelle de l'État de la religion musulmane sunnite. Elle seule est concernée, d'ailleurs. Donc, il faut faire attention quand on manie ces mots-là. Donc, cette propension que nous avons à vouloir appliquer à d'autres nos propres modes de fonctionnement ne peut pas marcher. On l'a vu avec les révoltes arabes. On s'est emballé. Pourquoi pas, non. Mais on a voulu appliquer, enfin, les pays concernés par ces révoltes, d'abord la Tunisie, puis l'Égypte, organisent des élections démocratiques. Ils ont organisé des élections selon une véritable procédure démocratique. Mais comme il n'y a pas la laïcité, on vote en fonction de son appartenance confessionnelle. Donc il était inévitable que dans un pays comme l'Égypte, où les frères musulmans sont installés depuis 1928, où ils ont beaucoup supplanté l'État là où l'État a été défaillant en matière d'éducation, de développement rural, d'aide de bienfaisance, etc., eh bien, les idées des frères musulmans, elles ont influencé très largement le vote des Égyptiens en 2011. Alors après, on s'étonne que les frères musulmans arrivent au pouvoir. Mais c'était un processus démocratique. Mmh. Voilà. Et donc les majorités et les minorités sont confessionnelles dans certains pays, là où, surtout là où l'islam est majoritaire. Mais comment se fait-il que nous n'ayons pas eu l'intelligence de savoir ça ? Nous, surtout les pays européens, et notamment la France, qui sommes si proches par l'histoire, par la géographie, de ce monde-là.
Mais parce que, comme je le disais au début, il y a cette persuasion qui vient de la lecture, on pourrait dire, d'Auguste Comte, et encore un Auguste Comte encore plus sécularisé que n'était Auguste Comte lui-même, puisqu'il croyait à la religion de l'humanité, mais cette idée que l'on va vers une sécularisation, que le monde se laïcise nécessairement, et donc que comme nous sommes les confidents de cette providence qui nous a indiqué que nous allions vers le laïcisme total, nous avons forcément raison. Donc il nous manque en fait une clé de lecture, nous ne sommes incapables même de comprendre à cause de cette grille séculariste.
C'est tout à fait vrai. Alors c'est vrai qu'il y a eu des tentations, dans le monde arabe notamment, d'aller vers une certaine laïcité, laïcisation plutôt, avec le parti Baas, le parti Wafd en Égypte. Ces partis avaient pour idéologie le nationalisme arabe, qui transcendait les clivages confessionnels. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant que ce soit un chrétien, Michel Aflaq, un chrétien de Syrie, qui ait fondé le Baas en 1947. Mais il avait quand même un partenaire musulman sunnite et un partenaire alaouite aussi, Zaki Arsouzi. Et ce bel idéal, eh bien, il était forgé sur l'imitation des modèles d'organisation sociopolitique européens. Mais à l'époque, au début du XXe siècle, l'Europe jouissait d'une aura très importante. On était subjugué par les études à la Sorbonne, tout ça. Enfin, beaucoup d'intellectuels du Proche-Orient venaient étudier en France et revenaient avec la philosophie des Lumières, cette laïcité qu'ils avaient voulu instaurer. Donc, il y a eu un vrai mouvement il y a 100 ans. Et puis, tout s'est arrêté. Parce que peut-être chasser le naturel, il revient au galop, je ne sais pas. Mais il y a eu aussi les événements, le conflit israélo-arabe. Les musulmans se sont sentis, bien qu'ils soient en partie responsables, humiliés par le fait que voilà, il y a Israël et ça leur est insupportable.
Est-ce que c'est pas aussi parce que finalement le laïcisme et le fondamentalisme se retrouvent, parce que ce dont vous parliez, c'est-à-dire cette distinction du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, avec une reconnaissance mutuelle, c'est-à-dire le pouvoir temporel ménage un espace pour le pouvoir spirituel et reconnaît sa limite sur un certain point, et le pouvoir spirituel reconnaît une autonomie relative du pouvoir temporel. Oui. Mais le problème, c'est que le laïcisme est lui-même une sorte de cléricalisme laïque, oui. Ne reconnaît plus vraiment une véritable place au pouvoir temporel, se prétend lui-même, devient lui-même une religion,
oui.
Et donc en fait le laïcisme absorbe tout et ressemble à une sorte de fondamentalisme inversé.
Je suis tout à fait d'accord, et ça me fait penser à un passage remarquable de l'exhortation apostolique Ecclesia in Medio Oriente que le pape Benoît XVI a publié. Après le synode auquel j'ai participé, il y a tout un passage sur la laïcité. Le pape parle de la saine laïcité. Mmh. Il dit que ce n'est pas la séparation des pouvoirs qui est conforme à l'évangile, mais la distinction des pouvoirs. L'Église n'a pas à gouverner, mais l'État n'a pas à faire comme s'il n'y avait pas une loi morale, une loi naturelle, pardon. Et il doit donc tenir compte aussi de l'enseignement chrétien pour l'élaboration des lois. Ça crée un équilibre, mais ça, on en est loin avec le laïcisme. Le laïcisme, c'est la religion du monde moderne, quoi. Alors justement, ça a suscité le recul des tendances laïcisantes dans le monde musulman.
C'est ça.
Nos modèles d'organisation sociopolitique sont devenus insupportables. Ils sont repoussés aujourd'hui, on le voit bien. La conséquence, c'est la réislamisation qui ne cesse de se propager et qui gagne le monde musulman tout entier, sur tous les continents. C'est quand même...
Oui, il y a le même monolithisme de chaque côté, une sorte de rivalité mimétique, on pourrait dire, pour parler comme feu René Girard, paix à son âme, entre eux, cette sorte de laïcisme comme religion d'État, finalement, et un islam d'État. Mais alors, je voudrais revenir sur cette question. Le temps file et on ne se lasse pas de vous écouter. On a jusqu'ici parlé de l'islam, comme s'il n'y en avait qu'un seul. Mais vous avez bien déjà parlé de différents courants, on l'a entendu, vous avez parlé de l'islam sunnite, vous avez parlé des frères musulmans comme un courant à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a d'autres courants. Bon, des choix confessionnels, mais c'était des choix confessionnels à l'intérieur d'ailleurs de l'islam. On dit que les premières victimes de l'islamisme, ce sont des musulmans. Il y a un conflit énorme entre sunnites et chiites. Donc, est-ce qu'on a raison de parler du monde musulman et de parler de l'islam d'une façon aussi monolithique ? Est-ce qu'il n'y a pas d'abord des différences majeures ?
Alors, il y a un islam et des islams. Il y a un islam dans la mesure où il y a un corpus d'écriture sacrée, le Coran, est suivi par les musulmans sunnites comme par les musulmans chiites. La seule différence, c'est que les musulmans chiites reprochent aux sunnites qui sont à l'origine du rassemblement du corpus coranique que nous avons d'avoir supprimé de ce texte la mention selon laquelle Dieu aurait choisi un membre direct de la famille de Mahomet comme premier successeur, Ali en l'occurrence, qui est le père spirituel des chiites. Mais sinon, c'est exactement la même doctrine. Après, donc, la succession s'est mal passée, il y a eu des guerres entre communautés, groupes rivaux, pour le califat. Donc le clivage, au départ, il est politique. C'est la légitimité à la tête de l'Oumma. Et ça continue, c'est toujours ça le vrai problème. Il n'est pas doctrinal, même si, justement à cause du schisme qui s'est opéré, la grande discorde, la fitna, comme disent les musulmans, chacun des deux groupes, sunnites et chiites, a développé des particularités, même dans la pratique du rite, la vie sociale, etc. Et puis en plus, du chiisme sont sortis des dissidences, les alaouites, les druzes, les alaouites, on en parle beaucoup avec la crise syrienne, puisque le régime de Damas est tenu pour l'essentiel par la minorité alaouite, persécutée, nous l'oublions pas, pendant 1000 ans, par les différents régimes sunnites, ça compte ça, pour analyser la situation. Donc, c'est vrai, il y a cette multiplicité, mais les alaouites et les druzes sont vraiment sortis. Ils ont leur propre doctrine qui a pris beaucoup de distance par rapport au Coran, à la Sunna et même à la Sira de Mahomet, puisque la Sira, c'est la biographie, parce que, vous voyez, les druzes méprisent Mahomet, par exemple. Bon, ce n'est pas le cas des alaouites. Alors, donc, il y a ces divergences-là. Mais sunnites comme chiites ont la même doctrine. Donc, ça, c'est un islam. Parce que les alaouites et les druzes sont tellement minoritaires. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'eux à cause de la situation. Mais voilà, en fait, non. Donc, ça, c'est une chose. Mais il y a tellement de différences dans la manière de vivre l'islam que l'on peut dire de manière légitime aussi qu'il y a 1001 islams. En fonction de la manière dont tel ou tel musulman conçoit sa religion, la pratique ou du conditionnement culturel, politique, idéologique.
Et en même temps, il n'y a pas de liberté d'interprétation officielle. On est à l'opposé, par exemple, du judaïsme talmudique, où il faut être dans la polémique entre rabbins, ne pas être d'accord autour du même texte, même si, parce que la vérité juive, c'est de se retrouver finalement autour de la table pour lire le texte. Mais on doit presque ne pas être d'accord. Alors que là, on parle de la fermeture des portes de l'Idjihad, c'est-à-dire il y a un moment où on interdit l'interprétation. Est-ce que chacun peut avoir son islam ? Est-ce qu'il peut y avoir un self-islam, comme dit Abdennour Bidar ?
Alors, il y a effectivement cet épisode historique très important. Au Xe siècle, à la suite de débats intellectuels très importants, les califes qui siégeaient à Bagdad à l'époque ont décidé la fermeture de la porte de l'Ijtihad. L'Ijtihad, c'est l'interprétation innovatrice, qui laisse la place à la raison, au libre-arbitre. Et la suite, la conséquence directe de ça, ça a été la proclamation, non c'était avant, pardon, antérieure à la fermeture de la porte de l'Ijtihad, la proclamation du Coran comme livre incréé. Donc l'homme n'a absolument aucune participation dans la conception, dans la composition et dans la rédaction du Coran. Donc ça fige tout, si vous voulez. On ne peut pas faire sur le Coran un travail scientifique comme on le fait sur la Bible. C'est impossible, sinon ça revient à toucher ce qui vient directement de Dieu, de l'au-dedans de Dieu. Le Coran est consubstantiel à Dieu. Vous savez, les musulmans, le Coran accuse les chrétiens d'être des associationnistes, d'associer au Dieu unique deux divinités, Marie et Jésus. Nous, nous pourrions dire aux musulmans, si on a un dialogue fraternel, courtois avec eux, mais est-ce que vous n'associez pas au Dieu unique le Coran, puisqu'il est consubstantiel à Dieu? Ouais, c'est une bonne. Voilà. Donc, ça fige tout travail de réinterprétation, d'adaptation et tout ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des musulmans qui essaient de moderniser la pensée religieuse de l'islam, ce qu'on appelle les nouveaux penseurs de l'islam. Ils ont beaucoup de courage et de mérite, il faut le reconnaître. Seulement, ils ne peuvent pas faire de travail scientifique. Ça leur est interdit dans la mesure où
ce... Enfin, ça leur est interdit dans les pays...
Oui, mais même, est-ce que vous connaissez des musulmans en Europe qui font un travail exégétique réel sur le Coran? Non, ils proposent des nouvelles lectures du Coran, mais avec des arguments spécieux. Ça tourne en rond, si vous voulez.
Il n'y a pas de travail historico-critique.
Voilà, exactement. Ni de travail sur la langue du Coran dans le monde musulman. C'est toujours en dehors du monde musulman que ces travaux se font. Et aujourd'hui, on a un foisonnement de travaux de ce genre-là qui sont passionnants et qui remettent très largement en cause tout ce que nous a transmis la tradition musulmane. Vous voyez, on n'a pas le temps de citer des exemples là, mais c'est très très intéressant ce qu'on vit maintenant. Le jour où des musulmans auront la possibilité d'entreprendre un vrai travail scientifique sur le Coran, sur la Sunna, sur la Sira, etc., les choses pourront vraiment changer. Mais là, tant qu'on en reste à ces essais de nouvelles lectures, d'adaptation... D'abord, il n'y a pas un magistère authentique qui fasse la promotion de ce genre de travail non plus. Pour être simple, il n'y a pas l'équivalent d'un pape dans l'islam. Alors, finalement, il y a mille et une manières de vivre l'islam. On en revient toujours à cette question de la multiplicité des islams et en même temps de l'unicité de l'islam. On n'en sort pas, si vous voulez.
Alors, vous avez parlé des Alaouites et de la Syrie. Vous êtes une spécialiste, en fait, de cette zone-là, du Liban et de la Syrie. Votre thèse portait précisément sur ces relations-là et une thèse de 1400 pages à l'époque, donc c'est énorme. On a vu la crise syrienne comme une crise autour d'un pipeline avec l'accord de Bachar el-Assad pour qu'il y ait un pipeline qui puisse acheminer le pétrole de l'Iran jusque dans le bassin méditerranéen, ce qui les mettrait directement en concurrence avec le pétrole de l'Arabie saoudite. Donc, ce serait en fait un conflit entre d'abord les Saoudiens et les Iraniens, donc qui se redoublerait en un conflit entre les Américains et les Russes. On a l'impression que ce sont ceux-là qui sont pris et que la Syrie n'est pas simplement cette opposition politique interne, mais ce serait pris dans un vaste réseau géopolitique. Est-ce que c'est la bonne lecture? Est-ce que vous auriez une autre lecture plus profonde à proposer de la crise syrienne?
Alors, ce que vous avez dit est tout à fait correct. Il y a tous ces acteurs qui interviennent dans la crise syrienne, c'est sûr, mais ces interventions arrivent dans un contexte très particulier. C'est l'opposition des Alaouites au pouvoir avec le monde sunnite. Je crois vous l'avoir dit tout à l'heure, les Alaouites ont été persécutés pendant 1000 ans. Ils sont considérés comme des hérétiques par l'islam sunnite. Ils ne sont plus chiites non plus, ils sont sortis de l'islam. Bien qu'il y ait quelques aspects empruntés à l'islam, notamment la personne de Mahomet et d'Ali, ce qui n'est pas le cas des Druzes. Mais n'empêche que les Alaouites s'accrochent au pouvoir parce qu'ils ont peur de vivre un génocide. Je vous donne un exemple.
Ils sont minoritaires dans leur propre pays.
Oui, ils sont maximum 10%. Les Alaouites se sont emparés du pouvoir en 1970. C'est la France qui a émancipé cette communauté qu'elle a découverte lorsqu'elle a été, ce qu'on lui a attribué, le mandat sur le Liban et la Syrie en 1922. C'est nous qui avons émancipé le territoire montagneux où s'étaient réfugiés les Alaouites pour fuir les persécutions. Les Alaouites viennent de Bassora dans le sud de la Mésopotamie. Petit à petit, ils se sont réfugiés vers l'ouest, au bord de la Méditerranée. C'est devenu leur berceau géographique. Les différentes dynasties sunnites qui se sont succédées ont toujours négligé cette région. Les Alaouites étaient les parias des sociétés. Et la France les a découverts comme ça. et les a fait bénéficier du développement de leur région. L'académie militaire de Homs était ouverte aux minorités, donc aux Alaouites. Les Alaouites ont milité au sein du parti Baas, justement. Mmh. Voilà, c'était leur intérêt, on comprend très bien. Et c'est ainsi qu'en 1970, des Alaouites ont fait un coup d'État à Damas, se sont emparés du pouvoir. Mmh. Parmi eux, il y avait Hafez el-Assad, le père de Bachar. Et donc, ils ont instauré le système actuel, qui n'a pas sans mérite, même si c'est une dictature, et que moi, je n'aime pas les dictatures. Mais le mérite du pouvoir détenu par Assad, c'est d'avoir organisé des relations apaisées entre communautés qui se détestaient, et qui se détestent encore, on voit bien maintenant. Mmh. Donc, ce clivage confessionnel, il ressurgit à la faveur de la crise. Juste un exemple. Au début de la révolution syrienne, en Arabie, à Riyad, j'ai un ami diplomate français qui vit là-bas. Il m'a raconté que les cinq appels à la prière quotidien du haut des muezzins, aux mosquées à Riyad, il y avait l'appel à la prière, et puis suivi de ceci. Que Dieu nous envoie le Mujahid, c'est-à-dire le combattant, capable de vaincre le traître, le traître à l'islam, Bachar el-Assad. Voyez, et on ressort une fatwa du XIVe siècle d'un juriste de Damas, sunnite, Ibn Taymiyyah, dans lequel Ibn Taymiyyah déclarait que les Alaouites sont pires que les Juifs et les chrétiens, contre eux, le djihad plaît à Dieu. Voyez, et tout ça ressort maintenant. Mmh. Alors, donc ça, ces réalités géopolitiques que vous avez dites, elles sont tout à fait justes, mais elles s'appliquent à un fond de concurrence et de lutte, de haine interconfessionnelle.
Alors, pour finir, maintenant, qu'est-ce que c'est que, selon vous, que l'État islamique ? Comment l'État islamique se situe à l'intérieur de cette constellation des islams ? Est-ce qu'il est une réalité autonome qui prend de plus en plus de poids ? Ou alors, est-ce qu'il est en lien avec, je dirais, un islam établi dans certains pays, puissant.
L'État islamique, c'est l'enfant de l'Arabie saoudite. La doctrine de ce pays, l'Arabie, c'est le wahhabisme, une lecture particulièrement rigoriste de l'islam. D'ailleurs, en Arabie, il n'y a pas de constitution. C'est le Coran qui en tient lieu. Et donc, avec cette idéologie-là. Les Saoudiens ont nourri l'État islamique. Ils l'ont financé, ils l'ont armé, ils ont formé ses cadres, ses combattants, etc. Et donc, ils sont responsables largement de l'émergence de Daesh, l'État islamique. Maintenant, ce qui est frappant, c'est de voir que cette même Arabie redoute l'État islamique et se met du côté des Occidentaux et des Russes pour lutter contre cet État islamique. Mais il y a beaucoup d'ambiguïté là-dedans. Donc, c'est la même idéologie. Mais pourquoi l'Arabie saoudite a peur maintenant, alors qu'elle a nourri ce mouvement et qu'elle a favorisé son émergence et son installation à Mossoul et à Raqqa? Parce que l'État islamique, qui se prétend un califat autoproclamé, eh bien, a des ambitions, évidemment, pour rendre le califat crédible, pour lui donner son autorité morale, religieuse, sa légitimité plutôt, il faut prendre les lieux saints de la Mecque et de Médine. Et ça passe par le renversement de la monarchie saoudienne, vous comprenez ? Mmh. Alors maintenant, ça terrorise le roi d'Arabie. Voilà, alors ils ont joué avec le feu et maintenant, ils risquent de le payer. Je ne sais pas si ça ira jusque-là, mais c'est un vrai projet. Et la force de l'État islamique par rapport aux autres mouvements djihadistes dans le monde musulman, Al-Qaïda, Al-Nusra, etc., et aux frères musulmans aussi, qui ne sont pas forcément djihadistes, mais ces idéologies, c'est que l'État islamique dispose d'un État, d'un territoire, pardon. Il a une assise territoriale et il bénéficie de la faveur de beaucoup de sunnites frustrés par les ambitions chiites qui se développent dans le Proche-Orient depuis la révolution de Khomeini en Iran en 1979. Cet arc chiite qui part de Téhéran, qui passe par Bagdad, Damas et Beyrouth. Les chiites sont terrorisés par ce réveil chiite alors qu'ils ont opprimé.
Les sunnites, oui,
ça leur déplaît beaucoup. Donc, ils veulent absolument le briser. Quand les Américains ont fait la guerre à l'Irak en 2003, ce sont les chiites qui sont majoritaires en Irak qui ont remplacé les sunnites à la tête de l'État. Ces chiites ont pratiqué une politique sectaire. Ils ont évincé tous les sunnites des structures de l'État. Alors, il n'est pas étonnant de voir que des sunnites qui étaient baassistes avec Saddam Hussein, donc, disons, laïcisants, aient rejoint l'État islamique, fanatique. Vous voyez ? Alors, ça nous étonne parce que ça ne correspond pas à nos manières de voir les choses. Mais c'est parce qu'il y a toujours cette dimension confessionnelle.
J'aime à dire. Et conflictuelle, donc, avec les chiites.
Voilà. J'aime à dire que dans le monde arabo-musulman, on passe, même plus qu'arabo-musulman, puisqu'il y a la Perse et la Turquie aussi qui sont concernées, de revanche en revanche. Humiliation, frustration, revanche. Et c'est un éternel recommencement. Jusqu'à quand ? Je ne sais pas.
Merci Annie Laurent pour toutes ces clarifications. Alors justement, pour pouvoir accéder aux petites feuilles vertes, est-ce qu'il y a une adresse mail, un site internet ?
Oui, alors je ne suis pas très à l'aise avec les adresses des sites internet, mais il suffit d'aller dans Google, de taper « Association clarifiée » et vous tombez directement sur le site avec l'adresse qui vous permet de vous inscrire et vous pouvez recevoir gratuitement, bien sûr les dons pour l'association sont... toujours bienvenue. Et vous pouvez recevoir dans votre messagerie électronique, à chaque parution, une petite feuille verte qui vous arrive directement sous le nom, donc petite feuille verte. Ne la mettez pas à la poubelle.
Merci Annie. C'était Entre nous soit dit, une émission proposée par Fabrice Adjadj avec Annie Laurent aujourd'hui et toujours à la technique Marlène Caron. Merci et à bientôt.